Et dans nos conversations avec Daniel Habert aujourd'hui, il va être question du calme, entre guillemets bien sûr, un calme tout relatif, un calme géopolitique autour de la guerre à Gaza. Et voici Daniel Habert, il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comme tous les lundis matins, nous conversons autour de la géopolitique mondiale, plus particulièrement depuis le 7 octobre sur la géopolitique du Proche-Orient. En ce moment, Daniel Habert, les temps ont l'air calmes. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous partagez également. Que cache au fond ce calme?
Et le calme précède les tempêtes ou les cache. Non, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne voit pas. Il y a, si on commence par, au fond, le théâtre principal qui est Gaza, mais on l'a dit plusieurs fois à conversation, derrière Gaza, il y a beaucoup d'autres choses. C'est toute la région qui est concernée. Sur Gaza même, il y a à la fois des opérations militaires extrêmement discrètes et qu'on ne voit pas parce que, au fond, ça ne les annonce pas. Mais il y a surtout un grand processus diplomatique qui est en cours, qui se passe aussi bien à Paris, qu'au Caire, à Doha, ou sur d'autres dates, et qui a pour but d'arriver à une fin des opérations à Gaza. Si on fait le constat, d'abord, il y a des opérations à Gaza en ce moment qui sont très ciblées, donc il y a des gens du Hamas qui sont tués. Malheureusement aussi, ça c'est très important, il y a des tués parmi les soldats israéliens, et on voit bien que ces morts israéliens affectent la population et affectent surtout Tsahal. Et on va, quand on va analyser ça, on va voir que Tsahal a beaucoup de choses à dire. Il y a en ce moment aussi des pauses humanitaires pendant plusieurs heures par jour, qui montrent aussi une sorte de ralentissement des opérations militaires voulues par l'armée israélienne. On voit aussi qu'il y a une montée des tensions au nord d'Israël. C'est-à-dire que Gaza devient relativement moins important dans l'esprit des militaires et même des politiques que ce qui va se passer dans le nord, c'est-à-dire avec le Hezbollah. Et donc, et puis il y a pas mal de déclarations, que ce soit du ministre de la Défense Gallant ou du porte-parole de l'armée Hagari. Donc, si on fait l'analyse maintenant, on s'aperçoit que Tsahal dit je crois que on a atteint nos objectifs. Ce qui était humainement et militairement possible d'atteindre. On a affecté les capacités militaires du Hamas de façon très grave. Donc le Hamas n'est plus un danger immédiat, et avant qu'il reconstitue ses forces, il va se passer beaucoup de mois, voire plus. Et donc les gains auxquels nous procédons en progressant dans les rues de Rafah, parce que c'est ça, c'est une guérilla urbaine dans Rafah et dans certains autres coins de Gaza, comme Khan Younes, ou même encore dans Gaza, nous cause tant de dommages que ça vaut pas la peine. Et autrement dit, au fond, l'espoir de tuer les dirigeants ou de les attraper, l'espoir de délivrer des otages, et c'est très paradoxal, parce qu'on en a délivré 4 par la force, mais la constatation, c'est tellement difficile et tellement coûteux, puisqu'il y a eu un mort parmi les grands officiers de Tsahal, M. Zamora, donc que ça vaut pas la peine. Donc pour Tsahal, nous sommes prêts à un accord, sans qu'on entre dans le détail de ce que ça peut être le gâteau. Et on voit que en face, la politique, les politiciens sont pas d'accord avec ça. Alors, on attribue à Bibi des raisons tout à fait personnelles pour prolonger la guerre. Mais en réalité, si on veut dépasser ces querelles politiciennes, on peut comprendre qu'un gouvernement israélien est à cœur de redresser ce qui a été très violemment atteint le 7 octobre, et au fond par un relatif échec apparent des opérations à Gaza, c'est-à-dire la crédibilité militaire d'Israël. Elle a été atteinte. Et donc, pour la retrouver, il faudrait une victoire éclatante, il faudrait une reddition de Sinwar, il faudrait un départ médiatisé. Vous voyez, donc il y a deux visions complètement différentes, la vision militaire qu'on peut comprendre et la vision politique qu'on peut comprendre aussi. Et donc, quand on rejoint les deux, la question c'est comment négocier et quoi négocier. Alors, on négocie, mais qu'est-ce qui est difficile à négocier? C'est en fait le prix à payer pour les otages. Parce que le Hamas est d'une certaine manière en position de force. Il a déjà beaucoup gagné. Il est devenu le héros de tous les Palestiniens. Il est devenu le héros de toute la cause musulmane dans le monde. Et il a aidé à détruire l'image mondiale d'Israël de façon catastrophique. Donc lui, il peut dire que chaque jour qui passe, c'est bon pour lui. Sa survie, même si ce n'est que de la survie, c'est bon pour lui. Et donc ses demandes sont extrêmement élevées. Contre les otages, il veut deux choses. Le retrait total d'Israël de Gaza. Donc lui, Hamas, rester à Gaza, seul. Et deuxièmement, il veut, contre les otages, pratiquement tous les prisonniers des prisons israéliennes. C'est-à-dire des milliers ou des centaines de Sinoirs qu'il faudrait libérer. C'est totalement inacceptable et par les militaires et par les politiques israéliens. Mais il y a une pression. Il y a une pression qui n'est plus celle des Américains, qu'on a beaucoup étudié dans Conversation, mais qui est interne à Israël. On voit le départ de Gantz, les déclarations des uns et des autres. On voit que la politique reprend ses droits. Et ça montre bien d'ailleurs qu'on est proche d'un dénouement. Mais seulement à Gaza. Or, derrière Gaza, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses.
Justement, les questions derrière Gaza, cette cause palestinienne dont vous parlez, où en est-on? Et en sous-question, évidemment, Daniel Haber, il y a la cause iranienne.
Bien sûr, et c'est ce qui rend cette négociation sur Gaza si difficile. Les gens croient, enfin ceux qui lisent les journaux pensent qu'il y a une simple négociation sur Gaza. Non, parce que ce qu'on va décider aujourd'hui sur Gaza préempte ce qu'on aura à décider ensuite et à négocier sur la question palestinienne, mais même la résolution de la question palestinienne ne peut pas se comprendre sans une solution de tout l'équilibre du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'organisation d'une force face à la menace iranienne. Donc ces trois négociations, en fait, elles sont en même temps. Et je pense que toutes ces négociations secrètes, dont on n'entend pas encore parler, obligatoirement touche ces trois problèmes. Alors, sur la question palestinienne, la vraie question, c'est qui va gérer Gaza demain? Parce que ça sera la réponse à qui va gérer toute la Palestine demain. Si on laisse le Hamas à Gaza, on va se retrouver dans la situation antérieure où on aura une Palestine coupée en deux, une gérée par le Hamas, l'autre gérée par l'autorité palestinienne. Donc, on essaie de voir si les deux morceaux peuvent être collés, ce qui suppose un accord entre le Hamas et l'OLP. Or, on n'y est jamais, et l'autorité palestinienne. Or, on n'y est jamais arrivé. Les tentatives sont très fréquentes. Encore récemment, à Pékin, le Hamas et l'OLP se sont retrouvés ensemble pour négocier. Ils sont arrivés à aucun résultat. Pourquoi? Parce que, au fond, ce que le Hamas veut, c'est non pas un État à côté d'Israël, mais à la place. Alors que l'autorité palestinienne s'est engagée dans une voie de j'accepte un État à côté d'Israël, même si derrière, on sait bien que son but ultime, c'est un jour de remplacer Israël. Mais enfin, ce sont deux voies, disons, qui sont tactiquement totalement différentes. Donc, négocier, et puis négocier quoi? Parce que lorsqu'on parle de négocier un État à côté d'Israël, le problème, ce n'est pas l'idée même d'avoir un État à côté d'Israël, c'est les conditions dans lesquelles seront faites. Quelles frontières? Quelle population? Qu'est-ce qu'on fait avec les 5 millions de réfugiés, les 700 000 qui ont quitté Israël en 48, qui sont devenus 5 millions, qui sont répartis dans des camps en Judée-Samarie, à Gaza, mais aussi au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et puis, qu'est-ce qu'on fait de Jérusalem? Voilà, et puis, dernièrement, qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté de cet État palestinien? Est-ce qu'on lui laisse une liberté totale de s'organiser militairement? Si on le fait, on aura 10 Gaza derrière qui viendront menacer Israël. Donc c'est pas seulement l'idée même, le principe même d'un État palestinien qui est en négociation, ce sont les conditions. Alors on les avait en 2001, ça s'appelait les paramètres Clinton, que tout le monde peut regarder sur Internet, mais les gens du Hamas disent « on veut beaucoup plus ». Donc, finalement, cette question palestinienne, elle est d'autant plus compliquée, et j'en terminerai là pour la question palestinienne, c'est qu'en réalité, lorsqu'on va se pencher sur la question iranienne, qu'est-ce qu'on met en face à la menace iranienne, quelle défense, quelle dissuasion on met face à la situation iranienne, on a le problème que la Palestine aujourd'hui, l'ensemble des Palestiniens, sont du côté iranien. et non pas du côté des Arabes sunnites, comme ils devraient l'être, puisqu'ils sont Arabes sunnites. Donc voilà, c'est derrière donc la question palestinienne se dresse tout de suite la question iranienne.
Et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans de prochaines conversations.
Tout
Daniel
à
Haber,
fait.
nous arrivons au terme de cette interview. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.